Y'a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, nous sommes sur CFM. La Ligue des droits de l'homme reprend ses émissions. C'est l'émission Urgence, urgence pour les droits, urgence pour les libertés. À noter que cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. Ce mois-ci, nous nous penchons sur la question de l'éthique dans le domaine de la santé. Cette émission précède une conférence débat programmée le 5 novembre prochain à Villefranche-de-Rouergue sur le thème « Doit-on forcer un malade à se laisser soigner ?» Cette réunion publique sera organisée par le comité d'éthique du Centre hospitalier de Villefranche en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme. Notre société évolue en permanence. Les progrès scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives. Les pouvoirs publics, les professionnels, les citoyens sont conduits à s'interroger sur ces évolutions, sur leurs limites au regard de notre droit, de nos valeurs, de notre éthique. Se posent aujourd'hui des questions complexes, telles que le rapport patient-médecin, le droit du malade, notamment à choisir un traitement ou à le refuser, la fin de vie, les soins palliatifs et bien d'autres sujets que nous aborderons. Le docteur Lambert, médecin à l'hôpital de Villefranche, spécialisé en gériatrie et président du comité d'éthique de ce centre hospitalier, va apporter son éclairage sur ces notions très importantes, mais un peu difficiles à appréhender pour beaucoup d'entre nous. Éthique, morale, déontologie. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. À la fin de l'émission, vous pourrez comme d'habitude écouter le traditionnel billet d'humeur de Dominique Ladé. La Ligue des droits de l'homme s'est également donné la parole aux citoyens et nous allons commencer, comme de coutume, par notre micro-trottoir réalisé sur le marché de Villefranche. Un peu de musique. Et la parole est aux citoyens.
Déjà le hip-hop en France faisait ses premiers pas. Il n'y avait pas de règles, pas de loi, non, surtout pas de contrat, pas de problème entre toi et moi. Tout était clair, du but à la manière dont tout devait se faire. Naïf novice mais tellement fier d'évoluer dans un système parallèle où les valeurs de base étaient pêle-mêle. Peace, unity, love and having fun. Le hip-hop n'a jamais eu besoin de gun ni de gang, de toys ni de bande, mais plutôt de la foi de ceux qui en défendent la mémoire et l'éthique, les valeurs essentielles, celles qui créent encore l'étincelle lorsque je me rappelle des premières heures du terrain vague de la chapelle. À l'époque, les héros s'appelaient actuels. Lucien Dinard.
les meilleurs. Big up pour être resté haut, si longtemps tout en haut, de l'affiche aussi haut, haut que le flow. De mes mots, de mes mots, de mes mots, il en aura fallu du boulot, des heures et des heures et des jours et des jours et des années même. Pour que le hip hop tienne, tout ne fut pas si facile pour le suprême.
Donc l'on se doit d'être habile, car l'amitié mais aussi la sincérité, ouais, sont les choses qui à tout moment peuvent déflagrer. C'est le côté obscur que cache notre nature. Ouais, j'en ai l'exemple, ça m'a foutu une trompe qui m'a ouvert les yeux sur ce sujet bien épineux. Tant mieux. Croyant que la galère nous ralliait sous une bannière, croyant que la galère faisait de nous des frères. Hier c'était le cas, pas si longtemps, dis-moi.
Non, 3-4 ans maximum, puis il y a eu mal donné.
À savoir la façon dont a évolué notre histoire, et ô combien l'unité même en pensée était le soir.
Ah, c'est bon,
laissez tomber les mouchoirs,
c'est ok.
On est toujours là pour foutre la foire, effectif diminué, et un obstacle déjà sauté
qui nous a à peine freiné, mais sachez que tout va se passer.
On a construit ensemble. Je me remémore les discussions que l'on avait ensemble et nos rêves. Tu t'en souviens de nos rêves quand on était dans les hangars, quand on sentait monter la fièvre. Putain, c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains, je ne regrette rien. On a tellement tutoyé deux fois le bonheur qu'on pourrait mourir demain. Sans regret, sans remords, notre seule erreur était de rêver un peu trop fort en omettant le rôle important que pouvait jouer le temps sur les comportements de chacun. Pourtant, on venait tous du même quartier, on avait tous la même culture de cité. Ouais, c'était vraiment l'idéal, en effet, on avait vraiment tout pour réussir. Mais tout n'est pas si facile, les destins se séparent, l'amitié c'est fragile. Pour nous, la vie ne fut jamais un long fleuve tranquille, et aujourd'hui encore, tout n'est pas si facile.
Qu'évoque pour vous le mot éthique ?
La droiture, la conscience,
la fidélité au serment d'Hippocrate,
le respect des autres, le respect de soi-même, le respect non pas des règles, mais enfin de ce qui fait que l'on peut vivre ensemble.
La morale et certaines valeurs, et surtout pas celle de l'argent.
Je ne sais pas. Voilà. L'éthique.
Ça part de la définition de l'homme, l'humain, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire, et dans quelle société on est là-dessus, on raisonne. Eh bien, si on respecte les voisins, si on respecte l'humanité qu'il y a en chacun de nous, on a un comportement que j'appelle éthique.
Quand on est dans une certaine éthique, c'est assez commun, peut-être aux différentes générations et à différents pays, il y a peut-être des valeurs qui sont communes.
Quelle différence faites-vous entre éthique et morale ? Et la différence entre éthique et déontologie ?
Entre parenthèses, accroche-toi, Jeannette.
Pour moi, morale est connotée d'une fonction d'autorité, d'un dogme.
De religieux.
Ça peut être aussi une morale syndicale, une morale n'importe quoi, mais c'est pour moi une espèce d'autorité, de carcan. Tandis que l'éthique, elle se choisit, elle se discute.
Éthique, ça a rapport à la profession. Morale, c'est plutôt personnel.
Oui, ben justement, la morale, les valeurs morales, c'est par rapport à des générations. Les comportements soi-disant moraux de nos parents, nos grands-parents, ne sont pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est très différent. Hein, et selon les différents pays, c'est différent aussi. Hein.
Je pense que l'éthique fait partie des valeurs, et notamment des valeurs financières, c'est-à-dire soigner tout le monde et soigner tous les patients à des prix non pas compétitifs mais normaux, accessibles à tous. Et morale, pour moi, ça rejoint un petit peu les problèmes de fin de vie.
La morale a été dévoyée par les églises parce qu'ils en ont fait un catéchisme, des règles qui obéissaient à leur croyances, à leurs dogmes. Et alors que c'est une branche de la philosophie, la morale, tout à fait. Et donc quelque chose qui... ce sont des règles de conduite. Alors, à différence de l'éthique, qui est quand même une philosophie. une philosophie de la droiture. La morale, c'est conventionnel. La morale, ça varie suivant les régions, ça varie suivant les époques. Rappelez-vous, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Hein. Donc la morale, pour certains, c'est une certaine façon d'obéir à des règles. Et pour d'autres, ce sont d'autres règles qui sont en vigueur.
Donc, si je comprends bien, la morale, elle aurait une relation par rapport à la géographie, par rapport au temps, alors que l'éthique serait plus intemporelle.
Ah, tout à fait. L'éthique, c'est profondément lié à la condition humaine.
Et la différence entre éthique et déontologie ?
C'est un petit peu lié, tout ça.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je ne sais pas trop. Enfin, c'est issu de l'éthique, peut-être.
La déontologie, c'est par rapport au travail.
Ah, mais la déontologie, c'est plus spécifique à une profession. Donc voilà, la déontologie, on parle de déontologie surtout en médecine, mais enfin, on peut en parler aussi dans le droit, par exemple. Mais c'est l'observance des règles de la profession.
Les soignants sont-ils seuls légitimes à avoir un avis sur l'éthique médicale ?
Absolument pas.
Non, je pense pas, non.
Absolument pas.
Apparemment, non.
Non, je pense pas. Je pense que et le patient et éventuellement l'entourage, mais surtout le patient, a le droit de regarder ce qu'on lui fait et son devenir médical.
Avant toute chose aussi, bon, il y a un aspect professionnel du soignant. Après, il y a le désir du patient.
Les lois à mettre en place par rapport à l'éthique médicale, c'est toute la population qui doit en débattre. Hein. C'est un sujet social. Hein.
Plus il y a d'équipes pluridisciplinaires qui incluent les patients, mieux on arrivera à répondre sur des sujets d'ordre médical.
Eh bien, on a autant de réflexions qu'eux. Après, ils ont leur pratique, ils ont leur déontologie, comme vous dites.
Mais de toute façon, il y a dans chaque hôpital un comité d'éthique consultatif qui rassemble des gens de tout horizon. Il n'y a pas que des médecins. Mmh.
Il faut se méfier des spécialistes et des experts qui ont leur mot à dire, bien entendu. Mais le bon sens populaire, parfois, va au-delà de ce que peuvent avancer les médecins, par exemple, puisqu'on parle de médecine. Non, il faut surtout ne jamais confier un pouvoir unique à une catégorie d'individus. On va prendre un exemple. La guerre de 14 a été dirigée par des généraux qui ont envoyé un certain nombre de millions d'individus suivant leur déontologie, leur éthique et tout ce que vous voudrez. Donc attention aux soi-disant spécialistes.
Pour vous, qu'est-ce que la fin de vie dans la dignité ?
La fin de vie dans la dignité, c'est choisir d'abord ce que l'on veut faire de son corps, ce que l'on veut faire de sa fin de vie. Je crois que c'est la seule liberté qui nous reste, c'est justement de choisir sa mort.
Mourir digne, c'est mourir dans le respect de soi-même et que les autres puissent respecter ce que l'on est et respecter les derniers instants de notre vie. Ah, pour moi, c'est l'euthanasie.
C'est la fin de vie comme le désir, dans la mesure où on a sa pensée. Après, bien sûr, chacun la conçoit à sa façon.
Et de pouvoir le faire avec un accompagnement, effectivement, de proches, mais aussi de gens qui permettent d'être serein.
C'est mourir en pouvant se regarder, enfin, si on est encore capable de se regarder. Parce que parfois, malheureusement, on a perdu le sens de la réalité et on ne sait plus trop où on en est. Mais justement, à ce moment-là, c'est pouvoir mourir en sachant que cela correspond aux idées que l'on a développées pendant sa vie.
Moi, je suis contre l'euthanasie, alors à 100%. Je suis... mourir dans la dignité, ça veut dire que mourir et aller jusqu'au bout. Ne pas arrêter artificiellement la vie, en tout cas. Mais ne pas arrêter la vie, ça ne veut pas dire non plus la maintenir avec les tuyaux, quoi. C'est être en conscience, hein, parce que très souvent, l'acharnement thérapeutique comporte les comas artificiels. Hein, très, très souvent, hein, les gens ne sont plus conscients. Ça pas forcément, quoi. Hein, mais au moment où on est conscient, quand ça paralysé, qu'on peut plus que bouger une seule œil et communiquer avec une seule œil, ça n'a pas d'importance. Moi, je crois qu'on a la mort par rapport à notre vie, quoi.
Avoir un enfant à tout prix, est-ce un droit ?
Moi, je ne me sens pas le droit de porter un jugement là-dessus, là, maintenant.
Question difficile. il y a d'énormes devoirs et pas que des droits.
Alors moi, je ne suis pas pour l'adoption plénière, par exemple, parce que je trouve que c'est usurper l'identité d'un enfant. On peut accueillir un enfant sans lui piquer tout ce qu'il a vécu avant, même s'il est tout petit. Et je trouve que c'est l'occasion de beaucoup de malentendus pour l'enfant, pour la famille, pour son devenir, sur son passé. Mais l'envie d'enfant, elle peut se satisfaire par la présence d'un enfant qui est là et qu'on va aimer, quoi. Hein.
C'est le problème de la procréation
artificielle, oui.
Artificielle, mais bon, alors
l'adoption,
on peut être pour. Maintenant, ça pose aussi le problème de l'adoption, disons, d'enfants par des couples homosexuels, voilà, par exemple. Enfin, là, oui. Alors là, moi, je suis plus réticent.
On n'a pas encore assez de recul sur ces études, hein, puisque on ne connaît pas ou très peu les enfants adoptés qui ont, par exemple, déjà 25 ans de vie. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il n'y en a pas encore assez d'études comme ça. Et secondo, je trouve que deux homosexuels qui s'aiment vaut mieux qu'un couple hétérosexuel qui se fout sur la gueule.
Je suis contre l'insémination artificielle, comme on fait avec les bêtes ou d'avoir des embryons dans des fioles en verre, quoi, non.
La question telle qu'elle est formulée, à tout prix, non. Avoir un enfant, c'est un objectif qu'on se donne pour se perpétuer quelque part, mais à tout prix, il n'y a pas de prix. C'est pas du tout dans ce sens-là. Ça peut être un objectif, c'est tout.
Moi, je pense qu'un enfant à tout prix, c'est d'accord. Sauf que ce qui me gêne, c'est par exemple les femmes de 65 ans, comme en Italie, qui veulent encore être mères et n'ont pas renoncé à ce rêve un peu éveillé. Idem pour les mecs qui font des enfants à 80 ans et qui font des orphelins, surtout.
Bon, alors, docteur Lambert, pouvez-vous réagir à ce que vous venez d'entendre et pouvez-vous nous donner votre définition, si tant est qu'il y en ait une, de l'éthique médicale ?
Une définition, ça risque d'être difficile, même pour moi. Ce qui me frappe d'abord dans ce micro-trottoir, première réaction, c'est que le mot Hippocrate apparaît rapidement. Bon, ça me fait plutôt plaisir, parce qu'il y a effectivement un enjeu. Et donc l'éthique, c'est pas spécifiquement médical, mais que ce soit lié à la médecine, ça me fait plaisir. C'est déjà une bonne chose. La deuxième chose, c'est que les réponses sont très riches. Sont très riches et avec quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est de dire nous sommes tous concernés. Et je crois qu'effectivement, l'éthique, ça touche à ce qu'il y a d'humain en nous. Et que donc, nous sommes tous à égalité, nous avons tous quelque chose à dire. Et si l'éthique peut vivre, c'est parce que tout le monde peut participer et que tout le monde a la parole. Et ça, je crois que c'est un peu le centre de la question. Ensuite, la question des définitions. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que ça fait un moment qu'on parle d'éthique, ça fait un moment qu'on parle de morale, et que suivant le point où on se place, on a des définitions différentes. J'ai l'impression que pour les philosophes, éthique ou morale, c'est la même chose. C'est très proche l'un de l'autre, et qu'il n'y a pas réellement de différence. Maintenant, suivant les points de vue, on peut voir les choses différemment. Ce qui peut-être est intéressant de voir, c'est comment l'éthique médicale est arrivée. Parce que finalement, c'est quelque chose de relativement récent, et c'est arrivé à partir des années 60, 1960, des États-Unis. Et à ce moment-là, il y a eu deux événements particuliers. Il y a eu, d'une part, un développement des biotechnologies qui était absolument inconnu jusqu'à présent. Il y a eu la ventilation artificielle, déjà dans les années 50, qui a commencé à se développer. La dialyse rénale dans les années 60. Donc ça posait des questions quand même. Comment un être humain pouvait être dépendant d'une machine ? Peut-on rester humain comme ça ? Et puis ventilation artificielle, ça touche le souffle, et le souffle, c'est la vie. Donc, qu'est-ce que l'on touche là en faisant des ventilations artificielles ? Et puis ensuite, il y a eu des greffes d'organes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de greffer un organe de quelqu'un d'autre sur soi ? Qui est qui ? Et ça, c'est les greffes de moelle, c'est les années 56. Et puis la greffe du cœur, le summum, 67. Et ça a provoqué beaucoup, beaucoup de questions. Et puis après, il y a eu le contrôle de la fertilité, avec la pilule qui a été agréée aux États-Unis dans les années 60, en Grande-Bretagne 61, en France 67, si je me souviens bien. Là aussi, on touche à quelque chose. Donc beaucoup de questions qui arrivent parce qu'il y a un développement des techniques médicales et que l'on se demande où l'on va. Et avec un sentiment d'inquiétude, un sentiment même de méfiance, qui n'est pas très récent. On m'a appris que Zeus avait foudroyé Hippocrate parce qu'il a ressuscité les morts. Donc déjà, on se méfiait des médecins à l'époque, et avec raison, parce que maintenant, c'est ce qui arrive. On a des défibrillateurs partout, et à quoi ça sert un défibrillateur ? À faire repartir un cœur qui s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est que mourir ? C'est le cœur qui s'arrête. Donc la personne est morte, et on le fait repartir. Donc, et ça nous semble banal en plus. Bon, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et puis, en parallèle à ça, il y a eu un certain nombre de scandales aux États-Unis dans les mêmes périodes. Alors il y a, chez des patients très âgés, on a transplanté des cellules cancéreuses. Chez des enfants retardés mentaux, on a injecté le virus de l'hépatite. Chez des Noirs américains, on leur a voulu étudier le développement naturel de la syphilis, alors que le traitement par la pénicilline était connu depuis longtemps. Des scandales énormes, énormes. Et donc on s'est dit, voilà, il y a des gens qui sont savants, manifestement, ne sont pas sages. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il y a eu la nécessité de réfléchir à cette question. Et d'un autre côté, cette préoccupation était aussi celle des médecins. Jusqu'où peut-on avancer ? Jusqu'où on ne peut pas ? Jusqu'où peut-on aller ? Je crois que l'éthique médicale, elle est là. C'est quelque chose, en fait, de très pratique, qui sort des définitions philosophiques. C'est... il ne suffit pas de travailler, on a une technique, mais il faut de temps en temps prendre du recul et se rendre compte de ce que l'on fait et en parler avec d'autres.
Oui, alors en France, nous avons un débat sur l'éthique, nous avons un comité national d'éthique, etc. Nous avons une réflexion sur toutes ces questions. Alors, est-ce que vous avez connaissance ? Est-ce que vous savez si dans les autres pays, notamment en Europe ou dans les autres pays du monde, la réflexion est du même type que celle que nous avons en France ? Est-ce que, pour terminer, est-ce que l'éthique peut tendre vers l'universalité ?
En France, on a un comité national d'éthique et je crois que c'est le premier qui a été créé à l'échelon national. Dans d'autres pays, ce sont des organismes indépendants, chacun suivant sa culture. Mais partout, c'est vrai qu'il y a une réflexion éthique. Alors la question de l'universalité est plus complexe. Et ce que l'on peut être voir, c'est que l'éthique, c'est d'abord une réflexion. Et que l'universel, ce n'est pas lié à des valeurs, dans le cas particulier, mais à un mode de raisonnement et à un mode de raisonnement rationnel. Dans ces questions éthiques, ces questions mobilisent beaucoup l'affect. Et l'affect est très dépendant des personnes. Chacun a des convictions. C'est difficile de discuter à partir d'affect. Par contre, on peut réfléchir à partir de raisonnement, à partir d'une rationalité. Et je crois que le point commun des différentes communautés d'éthique, c'est ça. Et il est peut-être universel de ce point de vue-là, parce que la réflexion rationnelle des uns peut être utile aux autres.
Alors, vous êtes président du comité d'éthique du centre hospitalier de Villefranche. Je crois que ce comité d'éthique est un relativement jeune comité d'éthique, tout récent. Donc, pouvez-vous nous dire, ce qui intéresse, je suppose, nos auditeurs, à quoi sert un comité d'éthique hospitalier, en prenant l'exemple de celui de Villefranche, quelles sont les composantes et quels sont vos objectifs et vos sujets de réflexion ?
Alors, les composantes, on a essayé de réunir beaucoup de personnes venant d'horizons différents. Parce que précisément, l'éthique médicale n'est pas liée uniquement aux soignants. Et donc, il y a des soignants, bien sûr, qui travaillent à l'hôpital, mais qui travaillent à l'extérieur de l'hôpital. Et puis, il y a des personnes de l'administration ou des services techniques. Il y a un juriste. Il y a... Voilà, on a voulu qu'il y ait un panel de gens qui sont intéressés à ces questions pour confronter précisément des points de vue. Et ce qui me semble important, c'est comment faire vivre l'éthique dans l'hôpital. Et alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a les questions d'ordre général qui intéressent tout le monde, ou qui devraient intéresser tout le monde. Mais il est intéressant qu'il y ait un lieu où l'on puisse se retrouver pour en parler et pour organiser des conférences qui parlent précisément de l'éthique. Une vision globale. Mais il est certain que dans l'hôpital de Villefranche-de-Rouergue, on ne va pas être fatalement confronté aux grandes questions philosophiques de notre société. Pas directement. On a un point de vue en tant que citoyen, mais pas forcément en tant que technicien. Par contre,
dans la vie de tous les jours, dans notre activité quotidienne, il y a fatalement des questions éthiques qui apparaissent. Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire émerger ces questions et de permettre aux soignants qui sont pris dans le travail, qui, comme tous les professionnels, travaillent la tête dans le guidon, eh ben de relever la tête du guidon, de se poser des questions sur leur propre action et d'en parler avec d'autres personnes. Voilà un peu l'objectif du comité d'éthique du centre hospitalier de Villefranche.
Alors, l'une des personnes interrogées insiste particulièrement sur la nécessité d'équipes pluridisciplinaires dans l'objectif de mieux réfléchir à l'éthique, de mieux respecter un certain nombre de principes. Qu'en pensez-vous ?
C'est absolument indispensable. Je crois que s'il y a quelqu'un, une seule personne, qui ne prend les décisions, même en son âme et conscience, on n'est plus dans l'éthique. Parce que l'éthique, c'est un raisonnement. Et pour raisonner, il faut être plusieurs, par la force des choses. Donc il y a ce dialogue à établir, et qui n'est pas forcément si commode que ça. Parce qu'il y a des habitudes, parce que dans l'hôpital, il y a une hiérarchie qui peut gêner ça, ou parce que dans le dialogue médecin-malade, eh bien, tout le monde n'est pas sur le même plan, par la force des choses. Et je crois qu'il ne suffit pas de dire « ils sont pareils, ils sont égaux », il faut encore que ça se traduise dans le concret. Ça, c'est pas toujours très commode à instaurer. Et pourtant, sans ça, il n'y a pas d'éthique.
Alors, je suppose que les questions d'éthique sont souvent confrontées dans notre société actuelle, dans notre monde où le business est quand même roi, sont confrontées à des pressions économiques, etc., notamment... on a parlé de trafic, on parle d'intérêts économiques supérieurs par rapport à la recherche médicale, par rapport à un certain nombre de choses. Donc je suppose qu'il y a confrontation permanente entre cette éthique, ce respect d'un certain nombre de valeurs de par rapport à l'humain et la volonté de certains de faire de l'argent dans certains domaines des nouvelles techniques médicales, etc.
Oui, vous avez raison. Et en même temps, les choses sont plus complexes. Parce que s'il s'agissait simplement de distinguer le bien du mal, ce serait relativement facile. Le mal, on le repère, on n'en veut pas. Le bien, on l'aime, on le suit. La difficulté, c'est qu'on a à choisir entre deux biens. Et c'est là où se posent les difficultés. Et c'est pour ça que l'on a besoin de réfléchir. S'il s'agissait simplement du blanc ou du noir, on n'aurait pas besoin de réfléchir. C'est immédiat. On a besoin de réfléchir parce qu'il y a des impératifs contradictoires. Les impératifs économiques, personne ne les aime, mais c'est vrai qu'ils sont là, et il faut en tenir compte. Alors parfois, on peut ruser, parfois, voilà. Mais comment le faire ? Ben voilà, c'est l'objet de la discussion. L'éthique, c'est choisir entre deux biens, c'est aussi se créer des espaces de liberté. On est dans une situation où on a l'impression que c'est bloqué. On ne peut pas avancer. Et puis on se rend compte qu'il y a des fissures. Voilà, l'éthique, par la réflexion, permet de créer des espaces de liberté où on pourra aboutir à une solution acceptable par les personnes qui sont concernées.
Donc, après une petite pause musicale, nous reprendrons le débat avec le docteur Lambert, médecin du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Papa, t'as connu toi et Poisson?
Bien sûr, mon petit, j'ai connu Poisson.
Et t'es comment?
Eh bien, tu vois la mer?
La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait des remous-mous?
Exactement, mon petit. Eh bien, cette mer, autrefois, était bleue. Et dedans, il y avait tout un tas de bestioles à peu près grandes comme ça, couvertes d'écailles qu'on appelait les poissons.
Ah, et papa, t'as connu toi les arbres?
Ah, j'ai bien connu les arbres, mon petit. Eh bien, tu vois ce pilou?
Ouais.
Eh bien, c'était à peu près grand comme ça, tout marron, avec en haut tout un tas de trucs verts, un peu comme du papier. Alors, t'as pas connu le papier, toi? Enfin, on appelait ça des feuilles.
Ouais, bref. Hé, papa, t'as connu, toi, les animaux?
Ah, oh, s'il y en a un qui a bien connu les animaux, c'est ton père, mon petit. Les dindons, les outards, les gnous, les girafes, les ornithorynques, les pas comme cher, les tapirs.
Et Les insectes aussi.
Les insectes, mon petit, les phases, les araignées, les libellules.
Et c'est passé où tout ça, papa?
Eh, mon petit, c'est passé où? C'est passé que ça s'est mal passé, mon petit. Qu'on les a bouffés. On les a mangés.
Vous avez tout mangé?
Bah ouais.
Vous n'avez pas laissé pour les autres?
Eh ben, c'est en français, mon petit. Enfin, non, la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y allait plus en avoir, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, bah, tout le monde en a eu. Et comme tout le monde en avait, tout le monde en avait.
Il n'y en a plus?
Exactement, mon petit. Il n'y en a plus.
Hé, papa. Lise, t'as connu, toi, quand il n'était pas 60 degrés?
Ah, j'ai bien connu, mon petit. Il était là comme ça. On se baladait. On avait froid.
Froid?
Oui, enfin, bon.
Dis, papa. T'as connu, toi, les oiseaux?
Ah, bien connu, les oiseaux.
Et t'es comment?
Eh bien, tu vois le ciel.
Le ciel, le truc tout gris au-dessus de nos têtes qui sent pas bon ou rien?
Exactement, mon petit. Eh bien, autrefois, ce ciel était dans un bleu. Et de vaste rapaces planaient au-dessus de nous.
Attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant, il y avait des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue alors qu'elle est noire, qu'il y avait des arbres, ils avaient des coques vertes, qu'il y avait des insectes, et puis qu'il y avait des animaux, les flocons en chair, qui faisaient froid. Tu serais pas en train de te foutre de moi, non? Et l'eau, t'as connu l'eau?
Calme-toi, mon petit. Calme-toi, j'ai connu l'eau, les fleuves, les rivières,
les fleuves.
Oui, tout plein d'eau, tout d'un coup.
Et vous avez tout
Bah oui, c'est-à-dire... On pensait pas, mon petit, on se disait, on sera plus là, et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, bah, nous voilà bien le nez devant nos grand-mères, tiens. Mais c'est pas de ta faute, tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste.
Ah, je suis pas triste, je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, assassin de poissons, tueur de merde, coupeur d'arbres, gobeur d'insectes.
Écoute, tu vas me parler sur un autre ton, sinon je débranche ton unité centrale.
Vous venez de nous rejoindre sur CFM, c'est Urgence, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, émission sur l'éthique médicale. Alors, docteur Lambert, vous, le comité d'éthique de l'hôpital de Villefranche a prévu une conférence qui sera animée par le docteur Rongière, président du comité d'éthique du CHU de Toulouse. Cette conférence est co-organisée en partenariat avec notre association, la Ligue des droits de l'homme. Et le titre choisi est « Doit-on forcer un malade à se laisser soigner ?» Qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi ce sujet particulièrement?
Je crois que c'est une question qui se pose peut-être pas constamment dans l'activité médicale, mais c'est une question que l'on rencontre souvent quand on discute avec d'autres personnes, y compris des non-médecins. On l'a vu, par exemple, il y a quelques années, à propos du sida. Où il y avait une certaine tendance à dire bon, il faut tous les dépister et puis il faut les forcer à se soigner. On s'est rendu compte assez rapidement en discutant que ça ne marchait pas forcément comme ça. Et cette situation-là, on peut la rencontrer. Et c'est une question qui ressort régulièrement. Alors je crois que cette conférence est une grande chance parce que le docteur Rongière anime le comité d'éthique du CHU de Toulouse depuis de nombreuses années. Il a donc une très grande expérience dans le domaine. Il pourra nous raconter ce qui se passe, nous faire toucher du doigt ce que c'est que l'éthique médicale, en plus dans un CHU, où là, il y a des techniques de pointe et des questions de pointe. Et donc, on va avoir beaucoup de chance d'avoir des informations de première main. Et cette question-là fait partie des questions, je crois, qui se posent en termes d'éthique médicale, et c'était, je trouve, un bon point de départ pour aborder plus globalement l'éthique médicale à notre époque.
Alors, vous avez illustré l'affiche d'une boussole. Pensez-vous qu'il y a des risques à perdre le nord?
Ce qui se passe, c'est que quand on lève la tête du guidon, on se demande où j'en suis. Où j'en suis, et on se sent parfois un petit peu perdu. Et avoir l'idée, avoir une boussole, et avoir quelque chose à quoi se raccrocher, ben c'est peut-être pas si mal que ça. Et donc l'éthique, voilà, c'est de se dire, je ne suis pas perdu, il suffit que je sorte ma boussole et que je réfléchisse avec quelqu'un.
Voilà. Et alors moi je voulais vous poser une question, quel est le rapport qu'il y a entre l'éthique et la loi? Parce que d'après la loi, on ne peut pas forcer un malade à se soigner, je ne me trompe pas.
Non.
Et pourtant vous posez la question.
Je pose la question parce que je crois qu'en pratique, elle se pose. Et que les réactions de membres de la famille, c'est il faut qu'il se soigne. Et la situation est intolérable, il le faut.
Je me souviens par exemple d'un monsieur qui aimait un peu trop la dive bouteille, et évidemment ça se passait pas très bien au domicile, la famille était très remontée, il voulait absolument qu'il soit hospitalisé et traité et guéri, de force. Évidemment, c'est pas possible, n'empêche que la demande était là. Et donc il faut bien écouter cette demande et il faut bien répondre quelque chose. Donc bien que ce soit interdit par la loi, on a affaire à des questions, on y est confronté, il faut trouver une réponse. Et alors ensuite, rapport avec la loi, la loi ne dit pas tout. D'abord, la loi, je crois que c'est un juriste qui expliquait ça, n'est qu'un le moyen terme qu'a trouvé la société dans une situation complexe où il y a des avis qui partent un petit peu dans tous les sens. Et ben voilà, on a trouvé quelque chose pour permettre à la société de continuer à vivre sans heurts. Donc c'est déjà pas mal, mais ça n'empêche qu'il y a à côté des avis qui continuent à être divergents. Donc c'est un point de repère. Et à côté de ce point de repère, il y a toujours des situations qui ne sont pas toujours prévues par la loi. Donc la loi ne dit pas tout. Et puis, la loi, elle est complexe. Donc entre deux lois, il y a des impératifs contradictoires. Alors comment on fait dans ces cas-là? C'est là où on a besoin d'une boussole. Et c'est là où on a besoin d'une réflexion. Donc l'éthique, elle est à côté de la loi. Et parfois, elle va un peu plus loin que la loi dans l'humain. La loi a parfois tendance à être un petit peu mécanique, un petit peu raide, un petit
voilà,
peu
voilà, d'ailleurs, rigide. Vous avez compris le sens de ma question, parce que la loi, justement, elle est contradictoire, puisque vous avez vocation, vous devez porter assistance à quelqu'un qui est en danger.
Oui.
Et notamment sur une transfusion sanguine, il y a certaines personnes qui refusent, par exemple, une transfusion sanguine.
Oui.
Et là, vous êtes dans un cas très complexe.
Et oui. Ces questions, elles se résolvent au cas par cas.
Oui.
Parce qu'il ne peut pas y avoir de situation générale. Il y a un contexte. Il y a des convictions, il y a ce que peut dire la personne qui est concernée d'abord. Et puis, il y a les interventions de la famille, ils sont concernés aussi. Et quand les avis sont contradictoires, ça devient compliqué. Et en même temps, il y a la loi, il faut sauver la personne parce qu'il y a une urgence. Voilà. Alors, si on n'a jamais réfléchi à ces questions avant, c'est sauf qui peut et on fait ce qu'on peut. Si on a déjà intégré les choses, ça améliore bien. Donc, c'est l'intérêt d'une réflexion éthique préalable pour se retrouver dans ce maquis.
Oui, et nous avons posé la question au cours du métro-trottoir sur qu'est-ce que, pour vous, finir sa vie dignement. Alors, certains répondent, c'est pouvoir choisir sa mort. D'autres disent, on est absolument contre l'euthanasie. D'autres disent finir comme on le désire, en accord avec soi-même, aller jusqu'au bout. Vous êtes médecin gériatre, donc je suppose que vous êtes confronté très souvent à la question des fins de vie et justement peut-être aussi à des injonctions ou des demandes contradictoires de la famille, du malade en fin de vie, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces sujets qui sont des sujets extrêmement importants et extrêmement difficiles?
Complexe et difficile, oui, vous avez raison, et conflictuel. Alors, la notion de conflit, elle apparaît dans ce micro-trottoir, où on voit des opinions extrêmement tranchées dans tous les bords. Moi, ce qui m'a surtout intéressé dans ces réflexions, c'est ce qui tourne autour de la question de la communication. Je crois que le mot apparaît comme ça. Comment peut-on comprendre ce qui se passe et comprendre l'enjeu, et d'abord pour la personne elle-même en fin de vie? Il y a quelqu'un dans le micro-trottoir qui parle de la perte du sens de la réalité. J'en suis pas si sûr que ça. Je crois que même quand il y a des maladies graves, type maladie d'Alzheimer, je crois que à travers le comportement, à travers des choses qui sont dites, on peut saisir l'enjeu de ce qui se passe. Et donc, la difficulté, l'enjeu, mais l'intérêt aussi, c'est d'établir le dialogue avec la personne directement concernée d'abord, mais également avec l'entourage qui connaît bien la personne et qui a un travail de réflexion qui peut être amené. Et on voit très bien que souvent au départ, ça part de convictions, et de convictions extrêmement tranchées. Et puis quand on analyse les choses, heureusement j'allais dire, ça devient un peu plus flou, parce que il y a du pour et il y a du contre. Il y a des choses auxquelles on s'accroche, mais il y a autre chose derrière aussi. Et que donc, surtout dans ces questions de fin de vie, mais finalement on a vu que dans l'éthique c'était toujours pareil, l'enjeu c'est de renouer des liens, d'établir une communication avec toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont légitimité dans le domaine. Donc les enfants, les parents proches, mais des amis, éventuellement. C'est assez rare, mais ça arrive parfois. Et puis les soignants, parce que le médecin traitant, par exemple, il connaît bien cette personne. Donc il sait comment elle réagissait. Elle sait, il sait ses attentes. Et puis les soignants qui sont là, dans le quotidien, comment il réagit. Est-ce qu'il est serein ou est-ce qu'il est tendu? Voilà, tout ça, c'est à mettre sur la table. Et quand on est de bonne foi, mais j'ai jamais vu de situation où il y avait de la mauvaise foi. Quand on est de bonne foi, il y a des solutions que l'on trouve. Et l'objectif, le mot a été dit dans le micro-trottoir, c'est sérénité. Du moins pour moi. La fin de vie, il ne faut pas se faire d'illusions. De toute façon, ce sera difficile. Pour l'être humain, mourir, c'est difficile et ce sera toujours difficile. Mais la sérénité est possible. Et alors, il y a des questions techniques. Parce que sérénité, quand on a mal, quand on souffre, non. Bon, donc il faut d'abord calmer la douleur. Mais ça suffit pas. Il faut aller au-delà. Il faut effectivement obtenir cette sérénité de l'esprit et qui va dépendre de l'intervention de chacun. Du rôle des soignants, mais du rôle de la famille. Si la famille est stressée, la personne, même malade, même lointaine, même avec des troubles cognitifs, sentira qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ne sera pas sereine. Et puis, on voit également des familles qui sont tellement accrochées à leurs parents qu'ils voudraient les garder jusqu'au bout. Et plus ils sont conscients de la gravité de la situation et plus ils disent « ce sont les derniers moments, il faut les vivre au maximum avec intensité ». Et du coup, la personne peut-elle partir sereinement? Parfois, on voit des situations qui sont difficiles. C'est difficile de lâcher. Et c'est difficile de lâcher, en particulier quand la personne a décidé d'elle-même, en disant « c'est fini maintenant, j'ai assez vécu ». Ça se voit, et c'est en soi respectable, ce n'est pas choquant. Seulement, comment réagissent les autres à ça, et la famille? Pourquoi veut-elle nous quitter? Ça fait mal, là. Ça fait mal. Donc, ben voilà, je crois que ça fait partie aussi de l'éthique de parler de ça de façon à permettre de s'éteindre avec sérénité.
Est-ce que la loi Leonetti aujourd'hui est suffisante pour régler un certain nombre de questions qui peuvent se poser par rapport à la fin de vie?
Moi, je crois que la loi Leonetti est une loi bien faite et qui va très loin et qui, dans mon expérience, résout les problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'à droite ou à gauche, il y ait des cas qui sortent ça. Mais je crois que c'est une loi qui est pratique, qui est fonctionnelle et qui marche bien.
Alors, nous passons de la fin de vie, pour terminer, de la fin de vie au début de la vie. Nous avons posé la question, avoir un enfant à tout prix est-il un droit ? Donc, nous avons eu des réponses diverses sur des sujets. Chacun a fait son interprétation de la question, ce qui est absolument normal. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question?
Je crois que j'aurais été embarrassé. Embarrassé d'abord par le mot droit. Parce que le droit, ça fait référence à une règle, à quelque chose que l'on peut revendiquer, que l'on peut exiger. Et là, on ne peut pas exiger ça. Mais il y a une autre acceptation du droit. C'est ce que l'on peut demander, ce qui est important. Et donc le mot droit est un petit peu ambigu. Mais là, il pose problème, effectivement. L'autre point, c'est l'enfant à tout prix. Et alors là, on tombe dans une question purement éthique. Parce que effectivement, c'est ça. À quel prix? En temps ordinaire, ça pose pas de problème. Mais dans des situations qui sont ou sociétales ou médicales, eh bien, effectivement, ça n'arrive pas. Ça devient possible grâce aux nouvelles techniques médicales. Ça devient possible grâce à l'adoption aussi. Mais on voit qu'il y a des règles qui sont changées. Donc, jusqu'où peut-on aller? Eh bien, voilà. Il y a un bien, naturellement, parce qu'on ne peut pas dire que vouloir un enfant est un mal. C'est encore un bien. Très bien. Mais jusqu'où aller et à quel prix. Et puis, avec l'enjeu, c'est que cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà. Eh ben, c'est la discussion, c'est une question éthique.
Voilà. Un grand merci, docteur Lambert. Je crois que la discussion était extrêmement intéressante et que vous avez tenté de nous éclairer, d'éclairer les auditeurs sur toutes ces notions ô combien importantes et ô combien complexes.
C'était un plaisir pour moi.
Merci. Et maintenant, place à Dominique Ladet pour son billet d'humeur, mais après une pause musicale.
Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique, attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Bonjour. Ce que Pierre Tartakovsky, président national de la Ligue des droits de l'homme, appelle l'immense conjuration des imbéciles, a failli provoquer l'embrasement du monde musulman et de s'étendre à nos pays européens. Modestement, je rejoins cette approche. Et je voudrais vous faire part de cette analyse en le citant tout simplement, en reprenant une partie de son édito du LDH Info de septembre. Je cite « Un crétin islamophobe met en ligne un film dont l'indigence le dispute à la vulgarité. D'autres crétins sautent sur l'occasion pour tenter de rameuter les foules. Et plus loin, quelques centaines de millions de musulmans se sentent agressés. D'ailleurs, à juste titre. Mais se gardent bien de suivre les crétins qui menacent le crétin. » Fin de citation. Et puis un journal en France se croit obligé, au nom de la liberté d'expression, au nom de la laïcité, de publier des dessins satiriques qui ajoutent de l'huile sur le feu. Je reprends la citation du président national de la LDH. Je cite « Le seul résultat objectif est de faire la course entre crétins. » Fin de citation. Et tout le monde va en rajouter. Le feu se propage. L'ambassadeur des États-Unis est assassiné, ou plus exactement tué lors d'une attaque clairement imputable à un commando organisé et sciemment orienté pour mettre le feu à un pays, à une région du monde en pleine reconquête de liberté et d'identité. Ne nous trompons pas. Nous aussi, ça nous renvoie à notre propre identité nationale et à nos luttes pour maintenir un minimum de liberté dans nos pays saccagés par une guerre économique mondiale qui, souvent, ne veut pas dire son nom. Saccagés aussi par un repli communautaire qui peut nous entraîner, nous aussi, vers une perte complète des valeurs républicaines, vers une perte complète de notre identité nationale, faite d'une mosaïque d'origine et de pensée, religieuse ou non. Tout cela rejoint pour moi le respect, ou plus exactement le non-respect. Le non-respect de l'autre particulièrement. Le non-respect du droit à la différence et du droit à la liberté d'expression. Cela nous renvoie à l'éducation, qui reste la base de la création et du maintien de toute société. C'est donc bien, en final, un choix de société qu'il nous faut faire. Soit l'éducation et le vivre ensemble redeviennent une priorité, soit nous continuons à être entraînés, à nous laisser entraîner, vers la défense, entre guillemets, de nos intérêts individuels ou communautaires, de nos droits. Vous savez, vous l'avez tous entendu, et sans doute tout dit aussi, la phrase miracle, la seule vérité entendable, quand il s'agit de nous, bien sûr, j'ai droit. J'ai droit à la tranquillité, et je porte plainte contre mon voisin qui fait trop de bruit sans tenter de négocier avec lui. J'ai droit à la sécurité, et j'accepte la mise en place de lois liberticides et de matériel qui touche directement le droit à la vie privée. Pire peut-être que cela, le « j'ai droit à », par exemple, à des soins immédiats dans un service d'urgence, sans voir que j'ai aussi le devoir de laisser la priorité aux personnes plus en danger que moi. Le droit, je le réaffirme fortement ici, le droit républicain ne peut pas être sans devoir. Il ne doit ou ne devrait s'appliquer que s'il y a respect du devoir en question. Au nom de la liberté d'expression qui, je ne le conteste pas, ne doit pas avoir d'autre limite que le respect de l'autre en tant qu'individu, au nom de cette liberté d'expression, donc, d'un petit nombre, on peut mettre à feu et à sang des pays, des continents entiers. Et pourtant, il est vrai que cela ne devrait pas être le cas. Et d'ailleurs, nous avons pu constater que, à part dans les endroits où des groupuscules se sont servis de la vidéo ciblée plus haut pour attiser la haine et tenter d'asseoir leur pouvoir ou leur influence, à part ces lieux, les réactions de l'immense majorité des musulmans ont été normales. Touchés, ils l'ont dit. Ils l'ont parfois manifesté aussi. Rarement il y a eu débordement, sauf dans les lieux où cela n'a été qu'un moyen mis en avant par des groupes radicaux ou extrémistes pour soulever l'enthousiasme des foules et provoquer leur allégeance à ces groupes, salafistes ou autres extrémistes souvent plus proches du bandit de grand chemin que de religieux. Un exemple grave se déroule sous nos yeux sans que la communauté internationale ne trouve les moyens de réagir. Comment peut-on ne pas réagir violemment devant des atrocités que vivent aujourd'hui encore les enfants, en particulier les enfants, dans le pays de Bachar el-Assad? Plusieurs fois, déjà lors des émissions de radio Urgence de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche-de-Rouergue sur CFM, plusieurs fois donc, j'ai évoqué le sort des enfants en général et des enfants de Syrie en particulier. Ce conflit qui n'en finit pas est une véritable guerre civile entre un dictateur avec sa famille régnante, son clan minoritaire d'un côté, qui, comme son père l'a fait avant, lui, pour rester au pouvoir, n'hésite pas à massacrer, et de l'autre, le peuple syrien dans sa grande majorité. Là aussi, les uns et les autres se servent des divisions communautaires pour tenter de garder ou d'étendre leur pouvoir. Plus ce conflit dure et se durcit, plus le risque de toutes les dérives se fait jour, des deux côtés. D'ailleurs, y a-t-il deux côtés seulement ? Bien sûr que non. Le risque est réel des dérives identitaires, de repli communautaire. Si on ne me reconnaît pas la pleine place dans mon pays, si je me sens rejeté, j'aurai plus facilement le réflexe d'écouter et de suivre celui qui me propose une solution simple et efficace. Imposer par la force mon point de vue. Et comment ne pas profiter de la faiblesse naturelle des enfants pour commencer par eux, ou se servir d'eux pour imposer ses idées ou la terreur aux opposants? Là non plus, ne nous trompons pas. Évidemment, à une autre échelle, et pas de façon identique, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans notre société nationale et européenne. Prenons l'exemple des cités, ou des Roms. Nous en reparlerons pas, car cela me semble essentiel. Droits et devoirs sont mêlés, ne vont pas l'un sans l'autre. Le non-respect de cela provoque des replis sur des positions extrêmes. Je ne vois que l'éducation et une éducation laïque pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Au revoir.
Bon, merci Dominique. Nous avons pu apprécier une nouvelle fois la pertinence de ton regard sur l'actualité. On se retrouve prochainement. C'était Urgence, Urgence pour les droits, Urgence pour les libertés, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, émission diffusée le dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. Une émission que vous pourrez réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et rendez-vous le lundi 5 novembre 2012 à 18h30 au Théâtre Municipal pour la conférence dont nous avons parlé, qui est animée par le docteur Rongière, président du comité d'éthique du CHU de Toulouse. Le thème de cette conférence, qui est réalisé en partenariat avec entre le comité d'éthique du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et la section locale de la Ligue des droits de l'homme. Le titre est « Doit-on forcer un malade à se laisser soigner ?» Vaste débat, nous espérons vous voir nombreux à cette soirée. Alors 18h30, de 18h30 à 20h30, lundi 5 novembre 2012, au théâtre de Villefranche-de-Rouergue, l'entrée est libre. De l'homme, défendant au quotidien les droits, les libertés, la solidarité. Refusons l'exclusion.